prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème : consommer rend-il heureux ?
Bonjour, nous allons aujourd'hui méditer sur un sujet de pleine actualité dans notre monde, dans notre société. Et j'aimerais que nous nous entretenions de la saveur ou de l'aigreur de la liberté. Ou peut-être une autre question qui pourrait être approchée, c'est est-ce que l'argent peut rendre heureux ? Alors pour ce faire, nous allons lire dans le livre des Romains, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, et simplement un simple verset, le verset 2, et voici ce que j'ai devant les yeux, il est dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, on pourrait traduire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà, que le Seigneur nous conduise dans cette méditation et que nous puissions en tirer tous les profits pour notre foi, notre vie, notre implication dans le service de Dieu. Dans quel monde vivons-nous ? Le diagnostic du temps présent est à faire. Jésus affirme ceci, il nous dit dans l'évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est une vérité. Notre société est passée du rêve au cauchemar. L'année passée, a vu le crash boursier. Les banques sont en banqueroute. Et cela révèle à la face du monde moderne une sordide réalité qui est la suivante, puisque nous sommes confrontés, certains le disent, à une vaste escroquerie planétaire qui fait des riches encore plus riches et puis les pauvres des miséreux. C'est la constatation que nous pouvons faire et chacun de s'interroger comment en est-on arrivé là ? Qui est coupable dans cette situation ? La Bible nous parle d'un géant au pied d'argile, nous le savons, puisque le livre de Daniel, au chapitre 2, nous parle de cette gigantesque statue qui va s'écrouler alors qu'elle est parée d'or, d'argent, de toutes sortes de matériaux précieux. Et c'est vrai que notre société pourrait ressembler à ce géant au pied d'argile qui vacille. Parce qu'il y a là des alliances qui sont faites, des alliances contre nature et des alliances improbables également. Et qui fait que la confiance des hommes repose beaucoup plus sur des choses aléatoires que sur des vraies valeurs telles que l'Évangile nous les présente. Et nous avons aussi ce retour d'un monde qui se croit à l'abri de tout et qui a enfanté vraisemblablement une immonde machine emballée qu'on n'arrive plus à arrêter, qui n'obéit désormais qu'à un seul maître, qu'à un seul impératif, c'est-à-dire c'est le profit, ou tout simplement le sacro-saint toujours plus. Et je crois que bien des siècles auparavant, Jésus nous enseigne sur cela. La parole de Dieu nous enseigne sur tous ces phénomènes de société qui là, tout en promettant le bonheur, la prospérité, des conditions toujours meilleures, fait que les gens deviennent de plus en plus malheureux, puisque s'ils s'enrichissent par l'extérieur, il semblerait que, et nous le constatons, qu'il y a une véritable disette, une véritable famine de l'âme, du cœur. Bien avant, Jésus avait averti qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça, nous connaissons cette citation. Dans une autre histoire d'une actualité saisissante, Jésus met en lumière le comportement des hommes de tous les temps. Et il est intéressant de tourner quelques pages de notre Bible, et j'en prends un témoin, cette parabole, puisque c'en est une, hein, sur laquelle nous reviendrons à plusieurs reprises dans notre méditation, dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 15. Écoutons ce que Jésus nous dit, et je crois qu'il a raison, parce que si nous le reportons à notre monde d'aujourd'hui, eh bien nous pouvons acquiescer. Jésus dit à ses auditeurs, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Jésus va dire autour de cette parabole bien d'autres choses, nous y reviendrons dans quelques temps, mais néanmoins, je crois que eh bien, les choses sont bien vues. Alors, où en est-on et qu'est-ce qu'est la vraie nature de notre trésor? En langage d'aujourd'hui, avec quoi et comment remplissons-nous le caddie? Eh bien, tout simplement de nos cœurs, de nos vies. Jésus y répond quelque peu, puisque dans un autre passage de l'Évangile, l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 27, Jésus nous dit ceci, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est de lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Et c'est vrai que lorsque nous confrontons ces pensées que la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, de ses biens, même s'il était dans l'abondance, lorsque nous sommes interpellés également tout à nouveau par eh bien, ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, de travailler certes, mais pour quelque chose de valeur, pour quelque chose de durable, pour quelque chose qui subsiste. Et nous voyons que, et nous allons y revenir certainement à plusieurs reprises, nous sommes dans une société de consommation, une société où nous prenons les choses et puis eh bien voilà, nous vivons en quelque sorte au jour le jour, sans penser eh bien, qu'il y a certainement d'autres choses qui sont beaucoup plus constitutives de notre existence et de notre vie, à savoir tout simplement eh bien, la paix, le bonheur, hein, la joie et bien d'autres choses. La Bible nous met en garde contre les dangers de l'illusion, parce que nous sommes aussi dans une société d'illusion. On promet, on fait rêver les gens, on fait miroiter toutes sortes de choses. L'illusion d'un bonheur qui n'en est pas un. Et je crois que la réponse, eh bien, c'est l'apôtre Jacques qui la livre quand il dit ceci, « En vous trompant par de faux raisonnements, mettez en pratique la parole, connaissez la parole de Dieu, parce qu'elle est propre à nous donner de véritables raisons de vivre, hein, une saine raison de vivre, mais malheureusement, parfois nous nous trompons par toutes sortes de raisonnements que l'extérieur, que le monde nous donne. Et l'avertissement se précise, puisque dans l'épître de Paul à Timothée, un texte qui est bien connu, sur lequel aussi nous reviendrons, il est dit ceci, donc, dans cet avertissement, dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 9, où nous lisons, nous avons sous les yeux cette parole, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien les tourments. » Aujourd'hui, lorsque nous observons notre monde, notre société, il semblerait que le véritable Dieu qui trône partout, c'est l'argent. Hein, c'est véritablement le leitmotiv de beaucoup. Et notre société de consommation, eh bien, fait de l'argent qui n'est qu'un moyen, tout simplement une fin en soi. Il y a un nouveau nom qui est donné maintenant, qui est apparu, c'est certainement un terme journalistique, c'est le mot consumérisme, qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est qu'il caractérise tout à fait bien la société de consommation. Et je crois que l'homme, en partant dans cette philosophie, dans cette direction, ne comprend plus les choses comme il faudrait les comprendre, c'est-à-dire que les buts, finalement, sont les buts ultimes de l'existence, du pourquoi nous sommes, eh bien, sont complètement effacés au profit de l'utilisation ou de la jouissance des moyens. Donc les choses sont renversées. Et à en juger par l'effondrement du dieu Mammon, puisque Jésus le nomme ainsi, les richesses, la prospérité, Notre société ne repose plus sur des valeurs réelles et objectives. Dans le temps, eh bien, les choses avaient une réelle valeur. Les biens de consommation, c'était le travail des hommes, c'était le temps passé, c'était la qualité, etc., etc. Mais nous nous apercevons que finalement notre société repose davantage maintenant sur la spéculation monétaire, financière, et on est à l'heure du virtuel où l'argent circule, l'argent qui circule n'existe plus, ce n'est plus des biens et des marchandises, mais tout autre chose que finalement, eh bien, là, ce que nous voyons sur les écrans d'ordinateur, et il n'y a plus rien de concret, ce qui donne... Ce qui fausse la perspective finalement eh bien, de notre monde. Alors pour stimuler l'économie de l'illusion, c'est ainsi que je l'appelle, le slogan est bien rodé et proposé à toutes les recettes inimaginables, consommer pour gagner ou avoir plus. C'est ce que nous entendons, c'est ce qui transparaît un petit peu autour de nous. Et paraît-il, consommer pour avoir plus eh bien, nous assure le bonheur et la réussite. Et... tout cela parce que tout repose sur ce que nous possédons. Ce n'est pas ce que nous possédons, puisque ce que nous possédons, eh bien, nous l'avons, c'est vrai, peut-être d'une manière concrète, mais nous savons qu'à un moment donné, il faudra s'en défaire. La définition de consommer serait celle-ci, consommer, consommation, du latin consumare, faire la somme, utiliser pour la satisfaction des besoins, employer et faire usage. En économie politique, ça veut dire tout simplement détruire l'utilité d'une chose. Une fois que c'est consommé, il n'y a plus rien. Si vous remplissez finalement votre réservoir de carburant, eh bien, vous allez pouvoir circuler, rouler, vous allez éliminer, et puis après vous recommencerez. Et c'est ça justement ce que cette société tend à vouloir nous dire. Nous prenons, nous consommons, et puis les choses disparaissent. Mais est-ce qu'il reste quelque chose de profond derrière tout cela ? Attention, à l'horizon de l'illusion, il y a toujours un amer désenchantement, et c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, c'est une projection dans les temps de la fin, qui sont peut-être les nôtres, et écoutez bien, parce que je crois que c'est intéressant de voir que la Bible, eh bien, nous, déjà bien, bien longtemps, eh bien, anticipé sur les temps qui sont les nôtres, et puis les temps de la fin de l'humanité, et dans Apocalypse, chapitre 18, verset 11, écoutez bien un petit peu toute cette débauche de consommation. Il nous est dit, « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, de la société de Babylone, puisqu'il est question de Babylone, parce que personne n'achète plus leur gargaison. Gargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur et de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objets de bois très précieux, en airain, en or et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, écoutez bien la suite, de corps et d'âme d'homme. » Ça, c'est ce qui marque finalement notre monde aujourd'hui, où il y a tant de choses. Nous sommes dans une société d'abondance quelque part, jusqu'à utiliser, et ça nous choque, finalement les corps et les âmes d'hommes, de cette manipulation, de la manière dont les choses sont conduites avec cette promesse du bonheur à la clé. Du billet ou de la pièce palpable, que nous avons encore, mais pour combien de temps, on est passé à la carte de crédit, qui est une forme d'encouragement à la frénésie collective, à vouloir vivre les yeux plus gros que le ventre. On pourrait peut-être dire les choses de cette manière, et c'est vrai que l'indigestion guette pour preuve, puisque dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, il nous est parlé de l'attitude. Déjà, il y a très 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 longtemps, des Hébreux sortis d'Égypte, de la servitude, et qui se sont révoltés contre Dieu parce qu'ils n'en avaient pas assez. Et à un moment donné, ils se sont pris à Moïse, ils ont fait la révolution en disant, eh bien, nous voulons manger de la viande. Et Dieu leur a donné des cailles, il leur a donné de la manne. Et il nous a dit que finalement, ils avaient une telle avidité, qu'ils en ont pris plus qu'il ne fallait, et que Dieu avait prévenu, il leur avait dit, ben voilà, si vous en prenez plus qu'il n'en faut, eh bien, vous verrez que la viande des cailles va pourrir, et que la manne va aussi se dissiper, et que, bien, quelque part, vous ferez la preuve de votre avidité à toujours vouloir de plus en plus. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, il y a quelque chose qui caractérise peut-être cette frénésie de la possession et que je retrouve tout simplement ce texte parce qu'il me semble qu'il est, il est tout à fait caractéristique de la manière dont les gens veulent prétendent vouloir être heureux par la possession de biens et particulièrement cette avidité de vouloir eh bien, tout simplement posséder toutes choses. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qui habitent seuls au milieu du pays. » Et c'est vrai que nous pouvons le constater aujourd'hui, les gens sont insatiables. Ils sont irraisonnables. Ils sont là sans limite quelque part. Et tout cela parce que, bon, ils pensent que avec tout ce qu'ils vont posséder, eh bien, ça leur donnera le bonheur. Et si nous revenons précisément dans ce que Jésus nous enseigne, dans la parabole que nous avons lue tout à l'heure, dans le chapitre 12 de Luc et au verset 17, quand il nous est simplement présenté les choses de cette manière, c'est une image. Il nous est dit « Les hommes d'un homme riche avaient beaucoup de rapportés. Et il raisonnait en lui-même. » Il n'avait pas pris conseil des autres, mais c'était son cœur, parce que son cœur était comme ça. Et il dira ceci, « Que ferai-je ? Je n'ai plus de place pour rentrer ma récolte. » Alors il y en a qui pensent le contraire, « Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je n'ai plus rien. » Lui, il se disait, « Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que j'en ai trop. » Tout simplement, « Voici, dit-il, ce que je ferai. » Un homme intelligent, un homme qui savait certainement gérer, mais qui avait oublié le principal. « Voilà ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui a dit une chose, insensé. Insensé, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, bien sûr, la question qui surgit, mais à quoi tout cela sert-il? Puisque cet homme arrivait probablement au fait de la prospérité, il se disait, mais j'ai tellement de choses que je ne sais plus quoi en faire. Alors il avait certainement fait de nouveaux investissements, il se disait à un moment donné, bien moi je pourrais me reposer, parce que sa sécurité à lui, c'était la sécurité de reposer sur sa sagesse, sur son intelligence, sur son savoir-faire, sur sa capacité de manager une entreprise et de gagner beaucoup. Mais il avait beaucoup, mais il ne se possédait pas lui-même. C'est-à-dire que son cœur, il savait-il qu'il avait une âme et qu'il y avait une autre dimension, l'embarras des richesses. Et nous vivons dans un monde où il y a, c'est vrai, des gens qui souffrent parce qu'ils en ont vraiment très très peu. Et puis des gens qui souffrent aussi parce qu'ils en ont beaucoup. Sont-ils conscients que la vie, elle n'est pas là? La moralité des choix et la morale des choses consommables, accréditant notre société et celle-ci, en quelque sorte, ça pourrait se résumer par cette remarque, montre-moi ton compte en banque et je te dirai qui tu es. Hein, on sait qu'il y a une autre formule, hein, de fréquentation, mais là, eh bien, la fréquentation, c'est la fréquentation avec l'argent, et puis tout ce que nous pouvons posséder. Imposer sa notoriété en fonction de ce que nous possédons et détenons en avoir. Et la grande question, c'est de savoir ce qui est le plus important. Est-ce que c'est finalement tout ce que nous détenons ou ce que nous sommes réellement, à défaut d'être, avoir à défaut d'être. Le riche cultivateur dont Jésus nous parle avait, mais il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas quel était le sens de son existence. L'homme aurait-il perdu le sens de ce qu'il est vraiment? Et le slogan qui est à la mode, c'est le pouvoir d'achat. Hein, on le retrouve dans toutes sortes de discours, d'une façon ou d'une autre. Et peut-être si je le reporte à moi-même, je peux me poser la question, mais mon pouvoir d'achat, fait-il de moi un homme? Fait-il de moi un être? Quel sens a ma vie avec tout cela? Ça, c'est une grave question, dont on n'entend jamais parler, bien évidemment. Où est-ce que je place la morale? Où est-ce que je passe l'éthique? Est-ce que j'ai des limites et des repères dans cette société? Y a-t-il quelques principes qui régulent encore l'ambition d'atteindre coûte que coûte les signes du bien-être tout en conservant la volonté d'être bien? Parce que ce qui compte, c'est d'être bien. D'être bien et surtout un homme de bien. Et on sait que l'argent, quelquefois, peut être douteux. Mais comme les Américains le disent, puisque c'est leur principale Maxime, business is business. Alors, on comprend que notre société est imprégnée de cette philosophie, mais ça a toujours été. Et peut-être cela nous amène à une ivresse. Et un homme qui est ivre ne prend plus le compte, ne tient plus compte, n'a plus le bon sens, n'a plus le sens des choses, les limites, parce que finalement il est ivre. Et je crois que nous sommes dans une société d'ivresse, de consommation, d'argent et d'autres choses. Or, il ne faut pas l'oublier, Dieu regarde. Pour juger d'un homme, il regarde à son cœur, donc à sa richesse intérieure. Quand je parle de richesse, ce n'est pas celle qui est à l'extérieur, c'est celle qui est au fond de lui-même et non aux apparences. Le contentement et l'abondance. On peut être certainement dans le contentement sans abondance, le superflu. Parce que si nous faisons reposer notre satisfaction sur l'abondance, peut-être que nous allons avoir le sort, ou nous connaîtrons immanquablement le sort de cet homme dont Jésus nous parle dans Luc. Est-ce que nous sommes à la course ou nous continuons à marcher dans la vie? Parce que ce siècle de vitesse d'accaparation, je ne sais pas si ça peut être en effet positif. Ou est-ce que véritablement nous sommes attentifs à nos besoins et Dieu est attentif à nos besoins, ou tout simplement nous marchons pour le plaisir, ou avec la recherche du plaisir? Mais est-ce que tout cela, c'est la vraie vie? Autant de questions que nous pouvons nous poser dans cette société. Et je crois que le message que nous partageons aujourd'hui est de plein pied avec notre monde, avec sa philosophie. Où en sont les enfants de Dieu? Puisque quand nous lisons Paul dans Timothée, il nous parle bien que la convoitise de l'argent est la source de tous les maux. Alors, où en sont les enfants de Dieu, les chrétiens, face aux influences et aux incitations à consommer plus? Je dis bien à consommer plus. Est-ce un caprice? Est-ce du conformisme pour être comme tout le monde? Est-ce une mode? Ou cela nous ramène aux paroles pertinentes de Paul, quand il nous dit dans Romains chapitre 12, puisque c'était la base de notre réflexion, quand il nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au temps dans lequel vous vivez, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Il est question de renouvellement, je dirais même peut-être plus précisément, il est question que l'homme de foi que nous sommes, les hommes de foi que nous sommes, nous devons apprendre à nous recycler. Nous sommes tellement formatés, mais à nous recycler, et pouvoir résister et garder la mesure en toute chose. Que nous ayons besoin de biens matériels, que nous ayons besoin d'argent, que nous ayons besoin de maisons, de voitures, etc., etc. Mais c'est l'équilibre et c'est la mesure en toute chose, sans tomber fou et sans verser dans une certaine ivresse, à en oublier le Seigneur. Dans la Bible, il nous est donné cette belle réflexion. C'est une prière. Il est dit ceci: ne me donne ni richesse ni pauvreté, afin que dans la richesse, j'en vienne à oublier le nom de mon Dieu, et que dans la pauvreté, je me mette à maudire son nom. Donc, tout est une affaire d'équilibre. Et je crois que ça, c'est vraiment, là, ce que nous avons besoin de comprendre. Hélas, nous consommons non plus par besoin, mais à la recherche de valeurs émotives ou symboliques qui caractérisent notre siècle d'accumulation, et richesse et bien, réussite et promotion sociale, de pouvoir et autres raisons d'exister, et le résultat. Jésus le dit bien, et nous avons un exemple typique, c'est la Samaritaine. Ce n'était pas pour des biens matériels, mais pour des biens affectifs, enfin des sentiments qu'elle voulait, et on sait que c'était une femme très malheureuse, qui amène dans notre société d'aujourd'hui encore plus de mécontentement, encore plus de manifestations, encore plus, finalement, d'expression de gens qui, sont toujours à réclamer quelque chose, et d'une insatisfaction qui hante et tiraille l'esprit humain. Est-ce qu'un chrétien est capable de dire ceci? Et ceci, c'est déjà David qui le disait il y a très très longtemps. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 4, nous avons cette belle parole qui exprime bien, finalement, ce que cet homme de Dieu avait remarqué dans son temps. C'est vrai qu'il était roi, il n'avait pas besoin de grand-chose, mais toujours est-il qu'il voyait ses contemporains et ses concitoyens, et il dira ceci, parce que c'était un homme de foi. Mais est-ce que nous pouvons dire comme David? Écoutez bien, au chapitre 4 du livre des Psaumes, il est dit ceci, et il parle à Dieu: tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment ou leur mou, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et ça, ce sont des belles paroles pour nous dire, eh bien Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse, parce que tu es mon souverain bien, c'est toi qui m'apportes ce dont j'ai besoin, et je me satisfais de ce que tu me donnes, parce que la véritable satisfaction, elle n'est pas dans les choses extérieures, consommables, qui vont disparaître, qui ont une durée limitée, mais la véritable satisfaction, le bonheur, la joie et la paix, ça se trouve au fond de moi-même. Les chrétiens ont un urgent besoin de redécouvrir qu'il y a intérieur un trésor impérissable, lequel procure une vraie joie d'être heureux, d'être contenté en se rappelant que tout leur appartient, si nous savons donner priorité aux valeurs permanentes, entendons par là les valeurs éternelles de la Bible, de Dieu, sur les valeurs passagères et fictives. Parce que on sait que tout passe, tout lasse, et puis tout casse, naturellement. Écoutons encore de ce que nous dit Paul dans Corinthiens, et il affirme une chose dont nous avons besoin de nous souvenir, et je crois que nous voulons être des hommes heureux si nous savons ceci. Et le secret qui nous est livré, donc dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 22, il est dit ceci, tout simplement, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, ou son espérance dans les hommes, dans la puissance des hommes, dans les capacités d'enrichissement des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Si nous avons cela, eh bien nous avons l'essentiel et le principal. Ça, c'est le secret. Jouir et user de tout sans y attacher notre cœur. C'est ça le véritable secret du bonheur. Alors, il y a une logique qui en découle. Être libre ou être dans les chaînes de la servitude. Est-ce que cette société me rend libre? Ou est-ce qu'elle m'asservit? Ou est-ce qu'elle me domine? Ou est-ce que véritablement tout ce qui est autour de moi, ce que je regarde, ce que je convoite, ce que je désire, ce que j'aspire, devient pour moi une véritable addiction? C'est-à-dire que je ne suis plus un homme libre. J'ai des chaînes de la servitude. L'exemple qui vaut pour nous aujourd'hui, nous le trouvons dans le livre de l'Exode, premier livre de la Bible, dans les premiers livres de la Bible, qui nous parle du peuple hébreu quand il est sorti d'Égypte et il va passer de l'esclavage à la liberté. Mais leur accession à la liberté, à tous ces hommes, est difficile. La Bible nous en parle. Parce qu'ils ne quittent pas un empire tyrannique auquel ils aspirent être affranchis, c'est-à-dire la domination de Pharaon, mais leur libération les plonge dans le vide. Ils plongent dans le vide d'habitude et dans un vide culturel également. Ils étaient malheureux en Égypte. Ils avaient des habitudes. Mais quelque part, ils ne voulaient plus de ces habitudes. Et quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils n'avaient plus rien du tout. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Et Dieu les faisait passer d'un stade où il y avait quelque chose, ils vivaient dans un monde malheureux, palpable, qui les opprimait, qui les dominait, dans un monde où il n'y avait plus rien. Mais Dieu était avec eux. C'est ça la grande différence. Alors, ils sont passés par le désert. Et ce désert leur a été imposé, non pas pour les détruire et les faire mourir, mais pour les libérer, pour les désempoisonner, pour les désintoxiquer. Et ils sont passés par le chemin de la foi et ils sont rentrés dans l'école de Dieu. Et quand on lit ces 40 ans d'errance, de vagabondage dans le désert, on pourrait dire, mais que de temps perdu, ce n'était pas un temps perdu, c'était un temps qui les préparait à avoir un autre héritage encore plus glorieux, c'est-à-dire le pays de Canaan. Et ils n'avaient pas compris. Et le sevrage était nécessaire. Et je crois que dans le monde chrétien, dans l'Église, eh bien, parfois Dieu nous fait passer par ce désert. Il nous fait passer par ce sevrage. Il veut nous désintoxiquer. Et nous nous apercevons, quand nous allons encore un peu plus loin dans le livre de l'Exode, les chapitres 14 à 17 font état d'une plainte incessante du peuple d'Israël. Parce qu'ils n'ont plus de repères, ils sont désorientés. Ce qu'ils avaient auparavant, Dieu leur a pris. Et ils se disent, mais comment pouvons-nous vivre sans ? Ils étaient profondément malheureux auparavant avec tout ça. Et Dieu leur dit, maintenant, je vais vous donner un autre bonheur, je vais vous donner une autre raison de vivre, je vais vous donner une autre raison d'espérer, une autre raison de posséder, mais des vraies valeurs, et plus des choses futiles. Alors ils étaient désorientés. J'en prends pour exemple le chapitre 15, toujours de l'Exode, où le peuple manque d'eau. Et à ce moment-là, c'est le regret plein d'amertume d'avoir eu et de ne plus avoir maintenant. Et quelquefois, Dieu fait des coupes franches dans nos vies. Par rapport à des choses, par rapport à des séparations, par rapport à des spoliations permises, par rapport à des choses qui nous sont enlevées, on se dit, mais je ne pourrais pas vivre sans, parce que ce sont mes habitudes, parce que c'est mon chemin, et je ne peux pas vivre sans. Il y a parfois des circonstances dans la vie qui nous retirent bien ces choses, et puis nous n'avons pas le choix. Et pourtant, nous devons comprendre que ce n'est pas négatif. Parce que quand Dieu nous prend quelque chose, ce n'est pas pour nous dire « je te le prends et puis c'est comme ça, c'est pour te frustrer », c'est parce qu'il veut nous donner d'autres choses. Et tant que nous avons encore ceci, eh ben, nous ne pouvons pas recevoir puisque nous avons les mains pleines. Et il veut que nos mains soient vidées pour que nous puissions les remplir, que lui les remplisse d'autres choses, de quelque chose de nouveau. Quand je parle de mains, je pense aussi à notre cœur. Donc, ils étaient dans cet état, ces Israélites. Le chapitre 16, toujours dans ce même livre, « Israël a faim, il se révolte ». Et plus loin, au chapitre 17, l'envie de retourner en arrière les saisit, parce qu'ils sont empoisonnés, je l'ai dit, par les habitudes, habitudes qui créent une dépendance, et ils pleureront, ils s'en prendront à Moïse et à Aaron, ils s'en prendront à Dieu en disant « Mais qu'est-ce que tu nous as conduits dans ce désert ? Nous aimerions mieux mourir en Égypte où il y a des tombeaux que de mourir comme ça dans le sable. Nous avions des concombres, nous avions des légumes, nous avions ceci et cela, mais Dieu leur avait donné une nourriture beaucoup plus miraculeuse quand il leur a donné la manne et puis qu'il les a conduits pendant toutes ces années miraculeusement. Alors l'esclavage, si longtemps attendu, devient pour les Israélites à ce moment-là préférable à la saveur de la liberté. Et ils vont se plaindre, ils vont pleurer. Et ils vont dire, mais non, c'est pas possible. Et Dieu nous fait toujours passer d'une chose à une autre. Il y a toujours une transition, parfois douloureuse, où il faut lâcher, quitter, abandonner, dessaisir de nos mains pour que Dieu nous conduise véritablement vers quelque chose de meilleur. C'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu tyrannique qui nous dit, voilà, je te prive. Ce n'est pas une privation, c'est une libération. Parce qu'il sait très bien que si nous restons dans nos habitudes et avec cet état d'esprit, cette philosophie dans laquelle nous sommes tellement imprégnés, mais nous allons mourir. Et Dieu ne veut pas que nous mourions. Notre rapport à la consommation est du même ordre. Et j'ai bien dit une addiction. Monde malheureux, désabusé, qui convoite hein, et qui cherche à s'identifier à tout prix à ses modèles et à ses idoles. Parce qu'il y avait des idoles en Égypte, mais nous avons aussi un monde où il y a plein d'idoles. Source de frustration infinie, de regrets, de remords. Réfléchissons aux exigences qu'impose la loi de notre temps, la loi du gain, la loi du conformisme ambiant qui asservisse davantage qu'elle ne rende heureux les gens. On n'a jamais autant entendu les gens se plaindre. Les manifestations, il y en a tous les jours. Les gens qui défilent dans la rue, il y en a tous les jours. Les gens qui font toutes sortes de choses pour dire « nous ne sommes pas contents ». C'est peut-être pas la manière dont ils le présentent, mais ils ne sont pas contents. Et pourtant, au regard peut-être d'autres sociétés, au regard de d'autres mondes, au regard de d'autres temps, de d'autres époques, de d'autres pays, je crois que nous aurions besoin de revenir à une notion juste que nous donne l'Évangile, à la notion juste que nous donne l'Évangile. Celui qui pense avoir besoin de tout cela pour vivre, vit mal, nous dit Jésus. Vit diminué par la confusion entre les buts et les moyens de la vie. En quelque sorte, c'est retirer les béquilles à un impotent qui a du mal à marcher sans. Dieu nous dit, lève-toi et marche. Mais on dit, Seigneur, je suis impotent, je suis infirme, j'ai mes béquilles, je ne les lâcherai pas parce que si je les lâche, je tombe. Eh bien justement, l'acte de foi, c'est de dire, eh bien Seigneur, je te fais confiance. Si tu me demandes d'aller plus loin, d'aller plus avant, et que tu me donnes de manger toutes mes béquilles de cette société, c'est parce que justement tu veux me donner de pouvoir marcher tout seul. Et on se dit, je ne peux pas vivre sans. La liberté de Dieu, la liberté en Dieu, c'est aussi savoir jeûner de consommation. Il faut le dire. Parce que souvent, dans la conception religieuse, jeûner, c'est pas prendre finalement des aliments, ou ne pas boire ceci et cela. Mais je crois qu'il y a un grand jeûne qui pourrait être proclamé dans notre monde occidental, c'est jeûner de consommation. Ce serait un effondrement économique, hein, on peut le deviner. Mais toujours est-il que pour nous chrétiens, nous avons peut-être besoin de nous poser la question. Savoir jeûner de consommation et marcher dans le désert où Dieu n'est jamais très loin, c'est un acte de foi. Seigneur, tu me demandes d'aller plus loin et d'abandonner ceci et cela, de quitter ceci et cela. Ça nous est arrivé de le faire à plusieurs reprises et on n'a jamais manqué de rien. Parce que Dieu a toujours été là. Et c'est un acte et c'est une démarche qui glorifie le Seigneur. Parce que le Seigneur n'attend pas que nous soyons de bons garçons, de bonnes filles. Il n'attend pas que nous soyons des saints et ceci et cela. Bien sûr qu'il peut y avoir aussi cette implication et cette direction ou cette aspiration. Mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui lui faisons confiance, c'est-à-dire des hommes et des femmes de foi, et de ne pas nous appuyer sur nos béquilles, sur nos déambulatoires, ou déambulateurs, ou toutes sortes de matériel orthopédique, moraux ou spirituels. Jésus nous le rappelle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et pour bien marcher et longtemps, il faut faire des choix, savoir se dépouiller de ce qui nous encombre, c'est-à-dire renoncer, abandonner les sécurités auxquelles nous sommes si familiarisés. C'est pas facile. Il faut bien le reconnaître, c'est pas facile, parce que nous nous sommes fait notre petit nid. Nous nous sommes fait notre petit confort, nous nous sommes fait notre place au soleil. Mais peut-être que ce confort-là, le Seigneur, sait qu'il n'est peut-être pas forcément très bon pour nous. Le soleil qui brille que nous avons choisi, c'est peut-être celui qui va nous brûler, nous détruire. Il veut peut-être nous donner un autre soleil. Alors, je dis bien, pour aller longtemps, durablement, il faut nous dépouiller. Jésus le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile. Si quelqu'un veut être mon disciple, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est clair. Et parfois de dire que nos sécurités... Ce n'est pas la sécurité du tout. C'est quelquefois des prisons, c'est quelquefois eh bien, des cachots dans lesquels nous nous renfermons, tout simplement. Je termine. Le « Viens et suis-moi » de Jésus, adressé aux uns et aux autres, je pense à Matthieu, je pense à Pierre, « Viens et suis-moi », s'entend à déposer le sac rempli du faussement nécessaire, oui, rempli du faussement nécessaire que nous nous encombrons. Nous ne pouvons pas nous imaginer, mais nous trimballons toutes sortes de choses. Nous avons des valises, nous avons des malles, nous avons des greniers pleins, nous avons des maisons pleines, nous avons des têtes pleines, nous avons du faussement nécessaire, ce que l'on croit toujours indispensable, car l'on sait pertinemment, comme Jésus nous l'a appris, que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il l'a dans l'abondance. Alors, je termine tout simplement, s'alléger pour aller du superflu à l'essentiel. C'est ça, là. Le but de cette méditation ce matin, c'est de pouvoir finalement eh bien, faire le vide quelquefois, hein, faire le nettoyage de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, où nous sommes tellement sollicités par la publicité, par la promotion, par toutes sortes de choses, pour aller vers l'essentiel. D'ailleurs, l'essentiel, il ne restera que le fond de notre vie, parce qu'il y a un proverbe qui dit que hein, c'est d'ailleurs un proverbe biblique, c'est une pensée, c'est Job qui dit hein, « Nu je suis arrivé sur la terre et nu je repartirai de cette terre », ça c'est clair. Et cette image que nous connaissons, c'est que lorsque nous arrivons finalement dans ce monde, un petit enfant, un nouveau-né, il a les poings fermés. Hein, parce que c'est un petit peu comme ça, hein, il pleure, il crie et s'il a les poings fermés. Et lorsque nous partons de cette terre, nous avons les mains vides hein, et les mains ouvertes, parce qu'il faut tout lâcher. Il faut tout abandonner. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. C'est-à-dire s'alléger pour passer d'une étape à une autre, du superflu de cette existence essentielle, et savoir se défendre de l'inutile. Oh, que de choses sont inutiles dans notre temps, dans tout ce que nous possédons. Nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il nous a donné, mais il faut que ça reste à sa place. Il ne faut pas que ça devienne une idole, il ne faut pas que ça devienne un attachement qui va remplacer l'attachement et la dépendance à notre Dieu. Et dans Corinthiens, toujours encore, chapitre 6 et verset 12, et je termine, ce sera la dernière citation. Il est dit, cette parole, et c'est Paul qui l'affirme, et je crois que ça tombe tout à fait sous le sens de ce que nous sommes en train de parler. Il est dit, tout m'est permis, et c'est vrai, même en tant que chrétien. Nous ne voulons pas avoir des œillères et puis d'être renfermés dans cette rigidité ou dans cet obscurantisme, et c'est vrai, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est une constatation. Tout m'est permis, et il ajoute, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est ça la question. Qu'est-ce qui domine dans ma vie? Est-ce que c'est toutes ces choses? Est-ce que vraiment elles prennent de plus en plus la priorité parce que Dieu m'a béni, et c'est vrai que dans cette bénédiction, il y a aussi un danger. Je peux m'attacher beaucoup plus au don qu'au donateur. Mon cœur, alors, à ce moment-là, va se dénaturer, il va se déplacer. Alors, savoir se défendre de l'inutile. Mais je crois que on termine tout simplement sur le premier texte que nous avons lu quand il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et des siècles, il y en a eu qui se sont succédés, avec leur mode, avec leur philosophie, avec leur conception, avec cette recherche effrénée d'un prétendu bonheur ou d'un confort, d'un bien-être. Alors ne vous conformez pas au siècle présent. Usez, mais sans vous laisser dominer. Prenez et bénissez le Seigneur pour ce qu'il vous donne, des temps dans lesquels nous sommes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une chose consommable n'est pas mauvaise en soi, une voiture, une maison, des meubles, et des voyages, hein, des vacances, etc. Mais c'est au niveau de notre esprit, comment devons-nous concevoir les choses? Est-ce qu'elles vont devenir pour moi l'Égypte, avec toute sa tyrannie et son affermissement, qui vont me faire trembler si je crains de les perdre? Ou alors à ce moment-là, eh bien, je comprends que Dieu a une autre voie pour moi. Et quand il me détache d'une chose, c'est pour que mon cœur ne s'y attache pas, pour me remplir d'autres choses, et de choses encore de plus grande valeur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyons recyclés, afin que nous discernions, que nous comprenions, que nous ayons la perspicacité, l'intelligence. Quelle est la volonté de Dieu? Pas la mienne. Animée par mes convoitises et mes désirs. Mais la volonté de Dieu, parce que je sais que Dieu a de meilleurs projets que les miens. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse à travers cette simple réflexion, parce que je crois qu'elle rentre tout à fait dans la philosophie, dans la conception de notre monde d'aujourd'hui. Et nous avons vraiment besoin d'être vigilants et en nous souvenant que si Jésus nous a dit tout cela, si ça a été relayé par un Paul, par tous ces hommes de la Bible, du Nouveau Testament, avec les exemples qui nous sont donnés dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des raisons d'être pour nous aujourd'hui, dans un monde supra-matérialiste, cet Occident de consommation effrénée. Et nous avons vraiment besoin de nous tourner vers Dieu pour que lui garde la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà, nous allons prier quelques instants, simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est vrai, Seigneur, il y a des mots qui apparaissent. Il y a, en effet, Seigneur, des modes. Il y a, Seigneur, tant de choses qui se font jour en raison de la technologie, des découvertes, des inventions. Mais nous croyons que le cœur de l'homme reste toujours le même, sous une forme ou sous une autre. Or, ce matin, Seigneur, tu nous interpelles, Père éternel, pour que nous comprenions qu'il y a les formes, et le principal, c'est le fond. Le principal, c'est le but, ce ne sont pas les moyens. Alors accorde-nous ta grâce, bénis-nous, visite-nous, et remplis-nous de ton amour, qui est le seul capable de nous arracher, de nous extraire, en effet, Seigneur, de ces marécages qui rend les gens, et nous le constatons tous les jours, de plus en plus amers, aigris, Seigneur, plus en plus malheureux, insatisfaits, Seigneur, et qui produit le mécontentement. Alors nous voulons te remercier et te bénir, parce que nous prenons conscience, Seigneur, que nous avons tout pleinement en toi, et tu nous rends heureux. Merci Jésus. Amen. Amen.